L'Express du 26 janvier, lendemain de la grosse tempête mortelle, que finalement, c'était pas si pire. C'est des chutes de neige, pas trop de vent. Mais il paraît que sur les routes, ce fut assez dégueulasse.
Ouais. Ouais, puis ça a tombé vite. Il y avait une petite trace de neige dans la rue, tout ça. Puis je regarde. Je prête attention, je regarde la rue ici où on habite. Fait que, regarde. Mais tu sais, c'est l'hiver, il neige.
C'est ça. Moi, je vois presque plus mon char, mais ça me rassure parce que le fait qu'il soit enseveli de tous les côtés me dit que les vitres sont encore là alors qu'il y a une vague de méfaits sur les véhicules pas loin de notre quartier à Montréal. Il paraît que... ça a été rapporté. Des dizaines de véhicules dont les vitres se font défoncer. Et on ne semble pas vraiment voler grand-chose. On fouille dans les véhicules. J'imagine que si on trouve rien de valeur, on laisse tout ça là. Mais il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes de ça, qui se sont fait briser la vitre du char, mais que rien n'est disparu. C'est juste le bordel dans le char. Mais j'étais bien content de voir ce matin que toutes mes vitres supportaient une bonne quantité de neige. Puis j'étais en train de me dire que ça va me prendre une pelle pour sortir de là. Mais gars, c'est l'hiver.
Je voulais avoir un char, ben pelle.
Ben pour vrai, j'en voulais pas de char. Mais j'ai pas le choix d'en avoir un. Parce que je veux sortir de Montréal des fois. Je veux pas avoir à planifier un mois à l'avance puis louer comme une auto. Si j'avais eu le choix, c'est certain que j'aurais pas de problème de parking ni de déneigement dans la vie. Mais bon, j'ai pallié à ça en m'achetant le véhicule le plus microscopique que j'ai pu trouver. Fait que c'est quand même un bon compromis. Hey, sais-tu quoi? On a un nouvel auditeur.
Ah, ben oui.
Ça s'appelle Bernard Drainville. Victoire sur toute la ligne! Il a écouté le crachoir, puis maintenant, ben, le lendemain, il arrive avec des réformes. Non, mais si on était Alexis Cossette Trudel ou un certain Jonathan Blanchette, ben, c'est le genre d'affaire qu'on se dirait. Mais puisqu'on est lucide, ben, on sait qu'il n'y a aucun lien, puis il sait sans doute même pas c'est quoi le crachoir.
Non, puis, ben, je sais que tu vas en parler, mais tu sais, le timing de la chose est quand même un peu comique, là. Mais,
oui, juste le lendemain que ça sort dans tous les médias.
Ouais, ouais. mais tu sais, c'est sûr que c'était pour éteindre un feu, là.
Oui.
Il n'y a pas grand détail, là.
Ouais, mais il y a quand même quelques petites mesures là. Il y a des solutions qui semblent, tu sais, louables, là. Comme celle de créer une voie rapide pour permettre à ceux qui ont un bac pertinent d'obtenir un brevet d'enseignement en seulement 30 crédits plutôt qu'une maîtrise qualifiante de 60 crédits. Fait que ça réduit le temps, puis ça peut inciter des gens à aller en enseignement. Il dit, j'ai consulté plusieurs spécialistes de l'éducation, ils m'ont dit que c'était possible. En fait, il y en a plusieurs qui vont vous dire ça fonctionnait bien du temps du certificat en pédagogie de 30 crédits. Je sais pas si on peut comme dire 30 crédits, c'est 30 crédits, peu importe où dans quoi tu les as pris. Je sais pas exactement, on n'a pas les détails comme tu dis. Mais écoute, si c'est pour marcher puis soulager un peu les enseignants puis tout en gardant un service potable aux élèves, là, je dis ça, puis tantôt je vais parler de résultats qui montrent que les services sont peut-être pas si bons que ça, mais c'est certain qu'il y a un paquet d'affaires à prendre en ligne de compte. Il veut aussi aider les enseignants. Ben, quand il a fait la réforme scolaire pour les enfants, la réforme scolaire qui a fait passer les enfants en difficulté dans des classes régulières devait s'accompagner de l'aide de plusieurs professionnels, tu sais, justement en difficulté d'apprentissage, des orthopédagogues, des orthophonistes, des techniciens en éducation spécialisée. Mais le problème, c'est que t'as bien beau faire ça sur papier, si ces gens-là n'existent pas, tu peux pas les inventer, mais tu peux les remplacer. Tu peux les remplacer par des éducateurs en service de garde qui, présentement, sont plutôt employés à faire de la surveillance dans la cour d'école, sur l'heure du midi, ces choses-là. Mais il va les faire rentrer dans les classes. En tout cas, c'est la volonté qu'il a. C'est-à-dire que puisque maintenant les cas un peu plus lourds, les élèves en difficulté sont dans les classes régulières, ça rajoute une charge supplémentaire à l'enseignant. Surtout que les orthopédagogues, orthophonistes et tout, ne sont pas au rendez-vous. C'est pas de leur faute. Ils existent pas! Ben, c'est ça. Vu que ça augmentait significativement la charge de travail, ben, les éducateurs en service de garde vont pouvoir être dans la classe et assister le professeur avec ces cas-là, soit les prendre en charge pour dépendamment des besoins, ou superviser la classe pendant que le professeur s'attarde à cet enfant-là qui a plus de difficultés. Ben, au moins, tu sais, ça va leur prêter main forte. C'est pas ce qui avait été promis. C'est pas l'expertise qu'on attendait. Mais c'est mieux que rien. Je pense que des éducateurs en service de garde ont quand même, à tout le moins, un certain talent, un intérêt, une vocation, une formation. C'est mieux que n'importe qui, là, tu sais. C'est certain que ça va pas nuire.
C'est surtout mieux que de surtaxer perpétuellement les gens qui sont là, tu sais.
Que de leur ajouter d'ouvrage tout le temps.
Ben, je suis fatiguant avec ça, mais tu sais, c'est la balance des inconvénients, tu sais. Je veux dire, moi, je suis à l'aise avec le fait que, pour alléger un peu la tâche, ou en tout cas pour donner un répit de tant soit peu, qu'il y ait des positions peut-être moins stratégiques dans lesquelles on pourrait positionner des gens qui ont un petit peu moins de compétences, mais tu sais, qui font démonstration de gros bon sens, là. Ouais. Je comprends qu'il y a des considérations syndicales, je comprends tout ça, là. Mais là, ça peut-tu être à propos d'avoir un système d'éducation qui a de l'allure? Ben après ça, on gérera les...
Ben, là, en tout cas, il y a des mesures pour alléger la tâche des profs qui n'en peuvent plus. Le ministre sort l'extincteur, par exemple, pour éteindre le feu allumé hier dans la presse, en ajoutant dans sa liste de priorités de revaloriser le français.
Ben oui, c'est sûr. Et puis considérant que... Ben ouais, mais c'est ça je te dis. C'est éteindre un feu, tu sais, c'est ouais. Ça que ça me donne. Là, le timing de la chose, tu sais, OK, est-ce que le planning de la conférence de presse a été chamboulé un peu à cause de ce qui se passait dans les médias? On ne le saura jamais, ça ne donne rien de spéculer là-dessus. Sauf que c'est sûr et certain que quand un Patrick Lagacé qui est super lu, puis tu sais, qui mentionne des trucs qui ont rapport avec la langue française, ben, tu sais, puis est-ce que ça peut avoir eu une incidence sur le moment où a eu lieu cette conférence de presse-là, ou les propos qui ont été tenus? Parce que, tu sais, il dit, hey, tu sais, moi ma première réaction, là, avant de le lire, l'article, là, OK, ça a été, ben là, c'est quoi, là? Tu dis, hey! Inquiétez-vous pas, on s'en occupe. Salut.
Ouais, c'est comme
OK, il a dit qu'il s'en occupait. C'est parfait.
Soit ça, ou bien, il y avait ces solutions-là en main depuis longtemps, mais il y retenait. Il attendait le prochain scandale, je sais pas. Mais c'est sûr que là, on s'amuse, là. Mais tu sais, au moins, tu sais, l'idée d'amener des éducateurs en service de garde, c'est quelque chose de concret qui va apporter une vraie aide. Ouais. Revaloriser le français, ça, ce sont des vœux pieux, c'est des belles paroles pour flagorner les gens qui sont outrés de voir comment le français en arrache.
Oui? Ah, puis by the way, on va régler ça, le français.
Ah, ouais, c'est ça, le français, on va le revaloriser. Ben, oh, comment, ouais, ben, monsieur le ministre, on va lui redonner une valeur? Ah, oh, comment? Ouais, c'est avec ça. Une valeur ajoutée. Non, il n'y a rien à dire là-dessus. Là.
Ben mais... Moi, je ris surtout de que j'aille dit « by the way ». Je suis plus collé là-dessus que « by the way », on va revaloriser le français.
Oh. Ouais. Ben, on va redonner une plus-value au français.
Ouais, c'est ça.
Tant qu'à prendre
un anglicisme. Tu sais, regarde là. Rainville, il a fait sa sortie là-dessus. Là, c'est ça qui est d'actualité. Bon, regarde, moi, je suis à l'aise de donner une chance aux coureurs, sauf que, tu sais, Frank, c'est quoi qui se passe avec nos politiciens, là? Ils ont des équipes de com, ils ont des, tu sais, là, ils ont des spin doctors avec eux autres, ils ont des stratégistes, ils ont des affaires de même.
Ils ont tout ça.
Comment ça se fait que tu sais, on renote autant moi, j'appelle ça des petites bourdes de communication. Tu sais, qu'est-ce que ça aurait été? Je comprends là, qu'il va envoyer un message fort, puis on a les mains sur le volant, puis c'est correct. Mais ça aurait été quoi de simplement dire, écoutez, on est au fait des améliorations requises en ce qui a trait à la langue française et je m'engage à me pencher sérieusement là-dessus avec mon équipe, puis blablabla. Je le sais qu'ils disent plus ça parce que le monde va dire, garde encore la langue de bois, puis blablabla. Ben moi, je préfère ça que de dire, mon équipe, puis que d'un an, on revienne, puis qu'on dise, ils n'ont rien fuck à le faire. Ouais, tu comprends-tu? C'est ça qui m'énerve.
Moi, ce que je comprends du message, c'est qu'il n'y en a pas de solution, puis ces attachés, ils ont dit, ouais, mais... Dréville, il a dit à ses attachés, ouais, mais là, pour la langue française, des résultats catastrophiques d'un élève sur deux qui coule l'épreuve de français. Ben, il dit que tu vas revaloriser le français pour tout de suite, puis on verra après. Fait que c'est ça qui s'est passé. Fallait qu'ils disent quelque chose. C'était partout. C'était le talk of the town de la province au complet. C'est le talk of the province. C'est fun. On est beaucoup dans les anglicismes ce matin en parlant de réussite scolaire.
Mais ouais, c'était
le sujet chaud au Québec. Alors, il devait absolument intervenir sur le sujet chaud. Là, je sais pas si y a une stratégie de revaloriser les mathématiques, mais c'est guère plus encourageant en mathématiques qu'en français. Écoute,
il y en a une stratégie, Frank. On monte les notes à tout le monde, réglé.
Ben voilà, c'est ça qu'on a fait. On a monté les notes de 5%. Écoute, c'est ceux qui avaient 55% ont pu réussir l'épreuve. Ils ont monté en fait les notes de tout le monde, sauf ceux qui avaient des très très très. Genre, si t'as 22, tu gardes ton 22. Si t'as 87, tu gardes ton 87. Mais la majorité s'est vu augmenter sa note de 5 points. Ça, c'est pas pour la note finale, là. Mais Caroline, c'est l'examen du ministère. C'est pas mal, en tout cas, de ce que je me souviens, le plus important, en tout cas, un des plus importants pour passer l'année, c'est le contrôle qu'effectue le ministère de l'Éducation, tu sais, en parallèle des écoles, là. Donc, mais c'est sûr qu'il faut quand même être honnête, être un peu indulgent et prendre en compte les 2 ans de pandémie dans lesquels l'école a été donnée plus sporadiquement. On a enseigné la base, tu sais, de ce qu'il fallait faire, là. Mais écoute, on assiste quand même à une baisse de 80% de taux de réussite là, dans les écoles, si on compare à juin 2019. Dans plusieurs endroits, c'est ça, c'est à peine un élève sur deux qui a réussi l'examen de mathématiques. Ça ressemble pas mal à ce que je racontais hier pour le français. Puis là, ben c'est ça, ils ont revu les résultats à la hausse après l'analyse des taux de réussite. Ils appellent ça une conversion des résultats. Ils appellent ça comme vous voulez, là. Vous avez fait passer des échecs, c'est ça que vous avez fait. Puis, mais tu sais, c'est pas quelque chose de tout à fait inédit. C'est prévu dans la loi, là. On peut convertir des résultats d'examen comme ça pour la moyenne des gens, ainsi que ceux qui approchaient la note de passage, incluant en fait ces gens-là. Quand on juge qu'un examen était plus difficile qu'à l'habitude, est-ce que c'était le cas avec cet examen-là? Ben, il a peut-être été perçu comme plus difficile puisque pendant la pandémie, on a enseigné la base, les savoirs essentiels. C'est comme ça qu'on appelle ça. Par contre, selon Mélanie Tremblay, qui est professeure en didactique des mathématiques à l'Université du Québec à Rimouski, dit qu'il est impossible de prétendre que l'examen de juin 2022 était plus difficile. En fait, c'est le contraire, Martin. L'examen était plus facile. En fait, on tenait compte du fait que pendant la pandémie, on avait allégé l'enseignement, donc on avait allégé l'examen aussi. Donc, on avait prévu que ça serait plus difficile, puis on s'est dit, bon, on va faire l'examen plus facile, comme si on va avoir des taux de réussite comparables aux autres années. On paraîtra pas trop mal, mais malgré cette prédisposition-là, malgré cette mesure-là de faire un examen plus facile, ben ça a quand même donné les résultats qu'on connaît, soit catastrophiques, c'est-à-dire un élève sur deux qui échoue l'examen. Donc, tu sais, c'est comme si on avait voulu atténuer l'effet de la pandémie avec l'examen plus facile, et puis là, on dirait que c'est pas assez, fait qu'on veut l'atténuer encore en baissant les notes. C'est peut-être pas nécessaire.
Ça donne l'impression que la stratégie, c'est on va diminuer le niveau de difficulté de nos examens, ça va remonter les notes, puis si ça marche pas, on va remonter les notes.
Moi, je pense qu'il avait pas prévu. Ouais, moi, je pense qu'il avait pas prévu de remonter les notes. Je pense qu'il se disait que de faire un examen plus facile allait sauver la donne et leur donner une belle image, par contre, et belle image au système d'éducation. Par contre, c'est ça. Ça n'a pas été suffisant. L'experte que je viens de nommer, le Mélanie Tremblay, qui est professeure en didactique des mathématiques à l'Université du Québec à Rimouski, dit, on veut pas prendre l'expression maquillage de notes. Mais c'est quand même ça. Tu sais, c'est. Elle dit, c'est quand ça, même ce qui s'est passé. Ce sont ces mots, là. Il y a aussi l'expert en adaptation scolaire, Régide Royer, qui est pas tout à fait d'accord avec cette conversion-là. Fait par le ministre. Puis c'est super bon son point. Il dit, si vous êtes ministre de l'Éducation et que vous voulez avoir le portrait réel des impacts de la pandémie, ça veut dire que vous pouvez pas vous fier aux chiffres que vous avez devant les yeux puisqu'ils ont été majorés puis ben non seulement influencés par l'examen plus facile, mais en plus majorés encore. Donc, c'est quel constat puis comment on fait pour remédier à ce manque de savoir? Ultimement, c'est pas juste des points, là, c'est du savoir. Il manque du savoir à ces jeunes-là, puis on se demande après ça quelle valeur aura le diplôme de cinquième secondaire, alors que en français, c'est 1/2, en mathématiques, c'est 1/2 qui coule. Malgré le fait qu'on ait rendu l'examen plus facile, j'ai l'impression que la pandémie a peut-être le dos large. Peut-être qu'on rend ça un peu... qu'on rend la pandémie un peu responsable de tous les maux, alors que je pense que le manque d'enseignement et le surmenage de ces enseignants-là est un facteur majeur. Mais bon, écoute, il fait son possible, puis il a quand même pris la mesure de rentrer des éducateurs en service de garde dans les classes. Ceci dit, je pense pas qu'il ait parlé de suppléance pour les éducateurs en service de garde. Là. C'est pour accompagner le prof qui est en fonction. Là. Fait que ça libérera pas de temps et de qualité de vie et de temps de repos et de temps pour travailler sans être obligé d'amener ça à la maison, les corrections.
Il a parlé de voie rapide, là.
Ça, c'est pour augmenter le nombre de profs, mais ça sera pas demain matin, mais...
Non, c'est sûr, mais là, faut commencer quelque part.
Sauf que c'est avec une formation moindre, est-ce que les enseignants seront moins qualifiés? Si au moins ils ont le brevet d'enseignement, puis si on pouvait peut-être, rappelez-vous ce que j'ai raconté hier, si on pouvait peut-être aussi alléger le processus d'embauche et qu'on demande pas les dessins de peinture à doigts de chaque candidat qui a fait en maternelle, ça aussi c'est peut-être une mesure qui pourrait accélérer en tout cas l'aide à venir pour les enseignants. Fait que là on dit qu'il faut, selon selon Mélanie Hubert, il dit la situation est assez troublante et critique. Il faut se mettre en mode rattrapage plutôt qu'en mode maquillage. Fait qu'effectivement, tu sais, OK, le maquillage, il est fait, là. Ça serait peut-être le temps de rattraper pour s'assurer que ces jeunes-là ont les connaissances nécessaires pour pouvoir poursuivre leurs études. Parce que s'il te manque des affaires en secondaire 4, ça se peut qu'en secondaire 5, t'es pas les outils pour comprendre la nouvelle matière. Et puis que si le cycle se répète et la roue tourne, puis on majore aussi les notes en secondaire 5, les gens vont s'amoncer au collège avec probablement des formations insuffisantes. Puis je vois pas de bénéfice pour la société d'augmenter les notes, à part que ça fait mieux paraître le ministère de l'Éducation et ça donne l'impression qu'on est passé plus facilement à travers la pandémie. Des petits résultats rapidement que j'ai pris dans le Journal de Montréal. Dans la commission scolaire Fleuve et des Lacs, c'est au Bas-Saint-Laurent. En 2019, on avait 87% de taux de réussite. On est à 54% en 2022. Charlevoix, c'était 91% qui réussissait. C'est quand même bien, là. C'est descendu à 63%. Montréal, c'était déjà pas très haut. En 2019, c'était 61%. Le taux de réussite, on est baissé à 52%. Marguerite Bourgeois, 79%, c'est passé à 67%. Et en tout cas, c'est pas mal le portrait des autres aussi, d'après ce que je peux observer. Donc, tu sais, c'est la pandémie a coûté cher, oui, mais aussi, je pense que le manque d'enseignement est est un facteur important dans cette histoire-là.
Je te conte une anecdote, parce que je voulais pas te couper. En secondaire 5, moi, j'étais un cancre en chimie, OK? C'était ma...
Bête noire.
Écoute, J'étais bien, ouais, ouais, j'étais bien correct dans pas mal toutes les matières, mais en chimie, écoute, ça, j'ai jamais eu le knack de ça. Il y avait quelqu'un qui avait piqué l'examen final. Il me semble que j'étais en secondaire 5, ça voudrait dire genre 91. En tout cas, longue histoire courte, l'examen final, il a circulé dans autour de l'école avant qu'on aille à aller le passer.
Colin, right? Ça va faire des bons résultats.
Ben, tu sais ce que ça a donné? Ils ont fait passer tout le monde.
Ils sont dit, bon, ouais. De toute façon, vous allez tous tricher. On fera pas un nouvel examen. Vous passez tout le monde. Puis ouais. Avec quelle note ils ont fait passer, te souviens-tu de ça?
Ben, 60.
C'est... OK, c'était 60 ouais. Tout le monde.
Ben non, mais les résultats que tu as en chimie n'affectent pas ton français ou tes maths. Là.
Non, je sais, mais j'étais curieux de savoir la note qu'ils avaient décidé d'attribuer au hasard, comme ça.
Ouais, puis ben non, mais ils ont dit on va donner la note de passage à tout le monde. Mais tu sais, il y a du monde qui sont. Il me semble même, je suis même pas certain qu'on a eu à le faire.
L'examen du tout, genre?
Non, j'ai pas de souvenir. Puis écoute, je détestais tellement ça que j'haïssais tellement la chimie que si j'avais eu à le faire, je m'en rappellerais.
Ben, en tout cas,
mais tu sais, ceux qui ont travaillé. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui existait quand j'étais en secondaire 1. OK, je suis vieux. Mais quand je suis en secondaire 1, là, il existait quelque chose au Québec qui s'appelait les exemptions. Les exemptions des examens de fin d'année. Moi, j'adorais ça, je les avais tout le temps. Fait que si tu avais une moyenne générale qui était au-dessus de 85%, je pense, mais je veux pas inventer des chiffres, là. Si tu avais une moyenne générale qui était au-dessus de 85%, les examens de fin d'année, tu n'avais pas besoin de les faire. Ah. Fait que moi, en secondaire 1, là, c'est l'année qu'on est déménagé à Montréal. Ben, je me rappelle, ça avait accéléré même. Peut-être que ma mère est dans le chat, là. Mais il me semble bien que ça avait accéléré l'exode de la famille Godette du Témiscamingue vers Montréal. Mais en fait, c'était pour la job à mon père, mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, je sais bien que c'est pas prétentieux, mais tu sais, j'avais pas mal de facilité à l'école. Fait que, tu sais, je me suis jamais dit, ben, je vais me forcer parce que je veux avoir les exemptions. Mais tu sais, si... Ça, là, comme valeur de... Je pose la question, j'affirme rien, là, mais est-ce que ça serait un bon incitatif, ça, de réinstituer ça? Parce que si tu peux monter les notes de tout le monde, si les résultats sont à chier, pourquoi tu remettrais pas ça, les exemptions?
Ben, rendu là.
Ben, tu sais, anyway, je lance ça de même, là, mais...
Moi, j'ai pas connu ça, mais je sais pas si c'était...
En 86 que je te compte, là.
OK, ouais, ça fait un petit bout. Moi, je commençais la maternelle, fait qu'on n'avait pas d'exemption de plasticine. Mais écoute, si t'avais été un peu plus... si t'étais né un peu plus tard, quelques décennies plus tard, t'aurais pas eu à consulter la copie de l'examen qui circulait parmi les étudiants avant que l'examen ait lieu. T'aurais pu te servir tout simplement de ChatGPT, dont j'ai parlé la semaine passée, je pense, qui était un robot conversationnel. Qui ça a l'air est bien bon pour aider dans les devoirs et même capable de mettre des petites fautes de français par-ci par-là pour que ça ait l'air crédible, qui va convertir des textes en changeant un peu l'ordre des mots, puis mais il paraît qu'en mathématiques c'est payable, des profs qui l'ont testé sur une question de mathématiques secondaire 4, justement le niveau où ont été majorées les notes de 5%. En mathématiques de secondaire 4, on a essayé de faire répondre de faire résoudre un problème mathématique à ChatGPT, puis ben il s'est planté. Fait que c'est pas encore super fiable, à moins que vous vouliez avoir une note réaliste, là, il va y avoir des erreurs. C'est ChatGPT.
Ouais, c'est pas parfait cette affaire-là.
Non, ben en tout cas, ben c'est surtout difficile à tricher dans une salle d'examen, mais pour les devoirs puis les travaux à remettre, il paraît que c'est un outil qui est de plus en plus populaire. D'ailleurs, je me souviens quand je vous en ai parlé que la commission scolaire à New York, sur tout le territoire de New York, c'était interdit partout. Mais bon, c'est reste que ça existe quand même. Puis en français, il est un petit peu meilleur qu'en maths, apparemment. Il peut faire un texte de 300 mots, puis faire un résumé. T'sais. Tu lui donnes les paramètres, OK? Résume-moi ce livre-là en tant de mots, en tant de paragraphes. Il va le faire. Il y aura quelques petites fautes pour rendre ça crédible. Mais bon, là aussi, c'est pas parfait. Là, tu sais, il prend ses informations sur Internet, puis il donne pas ses sources. Fait que j'imagine que s'il trouve pas l'information dont il a besoin pour compléter le travail sur un site fiable, ben, il va peut-être baisser le standard un petit peu, puis c'est là que peuvent se glisser des erreurs. Fait que, ben, c'est le fun de savoir que ça marche pas super bien, mais on sait que d'habitude, c'est une question de quelques mises à jour et ça devrait être résolu. Donc, les profs, en plus d'avoir tous ces problèmes-là de surpopulation des classes, de surmenage, de cours à moitié donnés et d'examens à moitié corrigés, ils vont avoir à dealer quand même avec cette patente-là de chat GPT pour... Ils vont devoir se méfier à chaque fois qu'ils ont un devoir devant les yeux ou un travail, tu sais, qui est important, qui doit être remis pour telle date, je sais pas, une recherche ou ben compréhension de lecture. Il va falloir qu'ils tiennent compte de ça, parce que même si ChatGPT est pas parfait, ben il risque de donner des meilleurs résultats que certains élèves auraient eu de toute façon, qui sont, mettons, des cancres, pour être tentés. Ah, tu sais, en plus, ceux qui ont beaucoup de difficultés, tu sais, je dis cancre, là, ça m'a fait penser à ce mot-là, mais je vais pas dire de façon péjorative, là, mais les élèves qui ont plus de difficultés, ceux dont il est le plus important de déceler ces difficultés-là pour les adresser puis l'aider à s'améliorer, ben c'est eux qui vont être le plus tentés d'utiliser ça, ce qui fait que ça va être eux qui vont se priver eux-mêmes en échappant à l'aide qu'ils auraient pu avoir pour acquérir ce savoir-là. On dirait que là, ce qui est important, c'est plus la note que le savoir, là. En fond, ben évidemment, avec ChatGPT, c'est clairement ça, là, c'est un outil qui sert à tricher plus que l'autre chose. Mais avec la mesure du ministère de majorer les notes aussi, je vois aussi qu'on essaie d'avoir plus des beaux résultats que d'inculquer quelque chose de réel dans la tête des enfants.
Pour que Bernard ait un beau bulletin, il faut que les élèves aient des beaux bulletins.
C'est bien dit. C'est tellement bien dit qu'on va aller à la pause là-dessus.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Martin, il y a une nouvelle intéressante à propos d'une tentative de meurtre sur Donald Trump et c'est du talent local.
Je ne sais pas si pour envoyer sa lettre, elle a utilisé ChatGPT, mais je vous parle de cette dame qui s'appelle, on a déjà vu des articles là, évidemment sur elle dans les différents médias québécois, Pascal Ferrier, qui avait été accusé de tenter d'envoyer une lettre contenant de la ricine à l'ex-président américain Donald Trump. Elle n'avait pas juste fait ça, elle avait en plus envoyé... elle a envoyé plusieurs missives, en fait, au total, c'est 8, dont 6 qui étaient adressées à des individus qui travaillaient dans un centre de détention du Texas où elle-même avait été incarcérée en 2019. Ces lettres auraient été expédiées les 15 et 16 septembre. Puis c'est un peu un coup de chance, ben pas un coup de chance, mais c'est-à-dire qu'évidemment, le courrier du président est toujours inspecté. Et c'est de cette façon-là qu'ils sont à bout de trouver, ben pas de trouver, mais de d'identifier cette lettre-là.
L'enveloppe est comme huileuse, hein?
Ouais, ben c'est ça, là. C'est sûr que, écoute, c'est pas... C'est là, je sais pas si c'est dans cet état exact-là, tu sais, qu'elle s'est rendue à la Maison-Blanche, là. J'en ai aucune espèce d'idée, mais... Puis même le pire, c'est que... Ce que ça me donne comme impression, c'est que cette personne-là, ça va pas super bien dans sa vie, là, à plusieurs égards, parce que à un moment donné, elle avait tenté de revenir au Canada, puis elle avait informé les douaniers qu'elle avait fait ça.
Ouais, c'est quelqu'un qui est très radicalisé. Ceux qui pensent que c'est juste l'extrême droite qui est dangereuse, détrompez-vous. L'extrême gauche aussi produit des individus violents, puis elle, c'est l'un d'entre eux.
Je vais te traduire la lettre. Écoute, j'ai trouvé bonjour, j'ai trouvé un nouveau nom pour vous. The Ugly Tyrant Clown, le clown tyran pas beau. J'espère que vous aimez ça. Vous êtes en train de ruiner les États-Unis et de les amener vers le désastre. J'ai des cousins aux États-Unis et je ne veux pas que vous soyez président pour les 4 prochaines années. Abandonnez et retirez-vous de cette élection. Alors, je vous ai envoyé un cadeau spécial pour vous aider à prendre cette décision. Ce cadeau est dans cette enveloppe. Si ça fonctionne pas, je vais trouver une meilleure façon pour un autre poison et je vais peut-être même utiliser mon revolver. Enjoy Free Rebel Spirit. C'est ça le nom qu'elle s'est donné. Et d'ailleurs, si vous pouvez le voir sur l'enveloppe, là, je vais vous le remettre en gros plan. FRS. 1050 Liberty Avenue. Elle a mis un code postal. J'ai même pas fait la recherche pour voir où ça dirigeait, là, un code postal.
Saint-Hubert,
canadien. Ouais, c'est ça. Je l'avais pas vu. Je vois avec mes vieux yeux. Saint-Hubert, Québec. Fait que c'est ça. C'est assez capoté. C'est assez particulier.
Mais d'ailleurs, chez elle, on a trouvé le mortier puis le pilon qui a servi à produire le poison à base de ricin.
Ouais, puis des armes, un couteau, toutes sortes d'affaires.
Mais les armes, c'est quelqu'un qui va pas. C'est quand elle a voulu. Oui. Quoi,
ça? Visiblement, c'est quelqu'un qui va pas top shape. Et là, le procureur mentionne, il demande 20 ans, 262 mois de prison si la cour accepte cet accord. Donc, il y aurait eu un plea bargain. Mm-hmm. Et la réponse, en fait, la communication qui est sortie du bureau du procureur général. Nous espérons que cette résolution servira d'avertissement que l'utilisation de notre système postal pour envoyer une substance toxique et d'autres menaces de ce type vous coûtera votre liberté pendant de nombreuses années. Aucune mention du fait que c'est pas correct de vouloir tuer le président. Mais,
nous autres non plus, on l'a pas dit. Mais évidemment, c'est... C'est un tout acte criminel et répréhensible. Et l'usage de la violence n'est pas une bonne façon de se débarrasser d'un politicien, tu sais, comme ça. Ça peut juste consolider sa base de fanatiques et en faire un martyr. Tu sais, l'histoire nous l'a appris, là. Si tu fais un martyr, il est encore... C'est comme Obi-Wan quand il se fait tuer par Darth Vader. Il est encore plus puissant encore une fois qu'il est mort. Mais dans ses lettres qu'elle a envoyées à des agences fédérales, c'était des individus qui travaillaient dans des centres correctionnels où elle avait été incarcérée. En 2019, elle a été incarcérée au Texas. Là, c'est pas sa première fois. Là, puis ses armes, c'est pas n'importe quoi. OK, il y a un couteau. Il y a un répulsif à ours. Ça, c'est un pepper spray, des gaz lacrymogènes, du poivre de Cayenne, mais format géant, une grosse bouteille pour les ours. Là, fait que c'est assez offensif plus que défensif. Et évidemment, cette arme à feu-là, de 9 mm. La madame est radicalisée solide. Puis c'est de l'extrême gauche. Elle s'est radicalisée sur Internet, comme beaucoup de gens. Puis, ça fait drôle parce que d'habitude, on voit plus. C'est plus dans l'autre gang qu'on voit ça, dans la gang de l'extrême droite. Dans l'extrême droite, c'est comme plus ouvert. On se crée des milices, des gardes nationales du Québec. Puis on se crée des espèces de lubies comme ça, puis des armées parallèles. Puis elle a fait ça comme, tu sais, de son propre chef. Elle semble pas appartenir à une organisation ou quoi que ce soit d'organisé contre Trump. Ça a l'air d'être dans sa tête pas mal de menacer, d'essayer de tuer des gens comme ça par courrier ou par les armes comme elle l'a
si bien précis. Je pense qu'on peut affirmer sans être méchant qu'il y a de la lumière, mais il n'y a pas toujours quelqu'un à la maison.
Ouais, voilà. C'est ça. On va dire de même. Martin, t'avais autre chose?
Fait que, parlant de lumière puis personne à la maison, je vais t'en parler super rapidement parce que je suis tombé là-dessus ce matin. En fait, écoute... Tu sais, comme je sais pas dans quel ordre présenter ça. Vous vous rappelez des déboires de Novak Djokovic, tu sais, l'an dernier là, à l'époque, parce qu'il voulait pas se faire vacciner, ben il a pas eu le droit de participer à certains tournois. Tout ça, ben là c'est les internationaux d'Australie. Et là, ben imagine-toi donc que là c'est de son papa qu'on parle parce qu'il a été vu en compagnie de ressortissants pro-russes alors qu'ils étaient sur le site évidemment des internationaux d'Australie et qu'il est interdit d'avoir des signes de support à la Russie dans le conflit contre l'Ukraine. J'ai fait quelques vérifications là. Tu sais, ça sort pas d'un chapeau ça là. Tu sais, il y a des organisations sportives qui disent carrément, tu sais, on veut pas pour éviter. Bon, regarde, tu penses au soccer, les hooligans, tout ça. Tu sais, ils évitent que certains symboles ne soient pas. Fait que, tu sais, je me disais, ouais, mais là, moi, j'ai le droit d'aller où ce que je veux, avec le drapeau que je veux, puis tout. Tu sais, c'est pratique courante d'arriver avec un drapeau dans un tournoi de tennis. Ben non. C'était déjà spécifié que c'était pas permis. Fait que là, bon, on voit le père de Djokovic en compagnie de ces gens-là, puis qui disent Hail Poutine, puis tu sais, la grosse affaire, puis Hail, puis on est avec. Mais non, mais c'est moi qui ai
dit ça. Okay.
Y a des fois, j'essaye de faire un show, tu sais. Mais, gloire à Poutine, puis on est avec nos frères orthodoxes, puis vive la Russie, puis toute la patente. Et là, ben, évidemment que la sécurité du tournoi s'en est mêlée un petit peu. Il y a une vidéo qui circule sur, vous pouvez voir ça sur Radio-Canada, une vidéo qui circule de ça, puis tu sais, c'est clair. Il y a des journalistes qui ont clairement identifié que c'était le père de Djokovic. Moi, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est très simple, c'est que plus on avance dans le temps et plus le constat est clair. Ben, si t'es anti-vax, t'es pro-Poutine. Tu sais, écoute, là, ça va ensemble, là. Tu sais,
je pense même. Ça va ensemble de plus en plus.
Bon, ouais, je pense même à nos conspirationnistes ici au Québec, là, les plus notoires, là, Cossette Trudel, tu sais, ce monde-là. Ben, c'est. Ils sont tous anti-vax, pro-Poutine.
Ah, oh, ouais.
C'est capoté, là.
Ces gens-là qui parle constamment de liberté d'expression, de se battre contre la dictature. Je me souviens, on applaudit quand Poutine a décidé de fermer tous les médias et de juste garder actifs les médias de propagande de son gouvernement. Eux autres, ils disaient, t'as lui a compris de faire faire ça au Québec, fermer tous les médias. Oui, j'ai encore la maudite voix de Joe. Fermer tous les médias, puis garder juste ceux qui sont vrais, là. Vous comprenez pas que, tu sais, vous accusez les médias au Québec et au Canada d'être à la solde du gouvernement, et Poutine vient de fermer tous les médias privés et de conserver le seul média qui est à la solde du gouvernement ouvertement, puis qui fait juste de la propagande, et tu sais, ils applaudissaient ce qu'ils dénoncent. Tu sais, c'est tellement imbécile. J'ai beau essayer de trouver un terme plus recherché, c'est ça le bon terme, c'est imbécile comme réflexion, comme réaction. C'est tellement tordant de voir ça, à quel point ces gens-là ne comprennent rien, strictement rien à ce qui se passe. Et ils ont juste décidé d'adopter la position contraire au bon sens, peu importe ce que c'est. C'est pour ça qu'après ça, faut pas s'étonner de les voir triper sur des dictateurs ou finir adeptes de la Terre plate, là, qui est probablement la finalité du conspirationnisme. Une fois que t'as grimpé toutes les marches de l'escalier conspi, c'était
arrivé un cul-de-sac
qui s'appelle la Terre plate.
Il n'arrête jamais ces marches-là, c'est ça le problème.
Ouais, mais la Terre plate, c'est un plateau. D'ailleurs, comme le spécifiait hier Tommy dans les Mercronspi, c'est vraiment un plateau, là. C'est la Terre plate, quand t'es rendu là, c'est que t'as avalé ben des couleuvres.
Ben écoute, c'est un pléonasme assez vicieux que de dire que la Terre plate, c'est un plateau, là. C'est tu montes en haut, là, je pense.
Mon esprit.
Hey, tu te rappelles, c'est parce que je veux sensibiliser. C'est vraiment capoté parce qu'on a parlé de ça, ça fait quoi, peut-être une dizaine de jours, je dirais. Espèce de mafia de la téléphonie mobile et tout ça. Ben là, écoute, imagine-toi donc que l'Empire québécois est en train d'essayer de conclure une transaction pour procéder à l'achat de Freedom Mobile, qui est une propriété de Shaw et Rogers, Shaw, TELUS, Bell, Vidéotron.
Le Big Tree,
ouais. Ouais, ben non, mais là, c'est que dans le fond, Vidéotron est en train d'essayer de faire en sorte que ça devienne le Big Four, Frank.
Ouais, parce c'est ça.
Oui, parce que là, ce qu'ils veulent faire, parce que le plus grand, évidemment, les gens qui sont le moins d'accord avec ce deal-là, ben c'est TELUS, parce que ça se passerait, il y aura une partie de ces services-là qui sera offerte dans l'Ouest, et c'est ça la stratégie, bien sûr, de Vidéotron et de Pelato. Fait que on refera pas le débat, puis mon but, c'est pas d'analyser cette transaction-là. Je veux juste vous faire entendre une clip dans laquelle vous allez entendre une démonstration probante de ce qu'on a dit l'autre fois. OK? Une des conditions pour que la transaction soit entérinée, parce que là, c'est dans les mains du ministère de l'Industrie. OK? Une des conditions pour que la transaction soit entérinée, c'est que, en procédant, Vidéotron puisse garantir le plus possible ou garantir qu'ils vont être capables de baisser la tarification. OK? Fait que, écoutez bien ce que Pelado affirme.
Ottawa, maintenant, le président-chef de la direction de Québécois a témoigné cet après-midi devant le comité permanent de l'industrie et de la technologie de la Chambre des communes. Pierre-Carl Pelado a défendu la transaction qui permettra à Vidéotron d'acquérir l'opérateur de téléphonie sans fil Freedom Mobile qui appartient à Shaw Communications. Il s'est engagé à réduire les tarifs dans l'Ouest canadien si la transaction est approuvée.
Nous comparons aujourd'hui donc les prix à l'extérieur du Québec versus ceux que nous avons et la possibilité également aussi, parce que nous avons des coûts qui sont associés à l'exploitation d'une entreprise, nous avons le potentiel de pouvoir réduire les prix de façon importante.
Avez-vous entendu qu'il a dit qu'il allait les réduire, les prix? Non. Il a dit qu'il y aurait le potentiel de réduire les prix. Alors que ce à quoi il doit s'engager, c'est de réduire les prix.
Sinon, il n'y a pas d'intérêt vraiment, tu sais. Puis
non, mais écoute, on n'a pas arrêté de dire que la justification pour que le Big Tree continue de s'opérer, c'est que tout le monde utilise l'infrastructure de tout le monde dans le territoire de tout le monde, puis tout le monde fait du cash de même. Là, il s'en va dire, ben écoutez, c'est que nous autres, on a des coûts d'opération qui font en sorte que, à l'heure actuelle, on a le potentiel de réduire les prix. C'est le maintien du statu quo, si vous venez de l'entendre, ce que c'est exactement ça qui est il n'y a rien dans ce que Pelado dit dans cette cote-là qui permet d'affirmer qu'il va baisser les prix. Puis s'il ne baisse pas, il pourra toujours se cacher en arrière de j'ai dit qu'il y avait le potentiel, on n'a pas réussi. Tu sais, je suis pas en train de dire, je fais pas le procès de Pierre-Carl Pelado, je fais pas le procès de Québécois non plus ou de
ses intentions.
De Vidéotron. Je fais pas de procès d'intention. Je fais juste dire que c'est toujours ça le langage, c'est toujours ça la tournure de phrase, c'est toujours de dire ben écoutez, on s'engage à faire notre possible, on s'engage. Mais il y a pas personne qui arrive qui pogne le bat puis qui dit laissez-moi faire le deal, là, puis je vais baisser les prix. OK? Il n'y a personne qui fait ça. C'est toujours la langue de bois.
Il se prépare à devoir absorber le coût de cet achat-là aussi. Là. Tu sais, ça va être long là, avant qu'il. Mais c'est ça. Je pense que s'il y avait vraiment l'intention de baisser les prix, ça en serait vanté. Hein?
Là, je sens que notre ami, mon Jack, vit des grosses émotions. Je comprends que ça puisse te je viens de lire ton
message au sujet de ça, là.
Oh, ouais, non, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas le droit, Frank. Je fais juste dire que c'est clair, là. C'est juste ça que je dis.
Okay.
Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est toujours un peu l'espèce de langue de bois. Puis là, tu sais, dans le fond, je dis, là, c'est parce que c'est Pelado, puis ça donne que c'est ça. Ça pourrait être n'importe qui, là. Puis ça serait ça le langage, là. Tu sais, c'est ça que j'essaie d'illustrer. Je veux pas caller out Pelado nécessairement. Dans le sens que ça pourrait être n'importe quel autre intervenant. Là, on va voir qu'est-ce qui va arriver. C'est ça, moi, de ce que j'ai lu, là, puis je veux pas, l'analyse d'une transaction ici. C'est pas ça mon métier, mais, de ce que j'ai lu, puis de ce qui semble se tramer, ça va avoir lieu. OK? Le deal, ils vont le faire. Là, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est l'ouverture des portes de l'Ouest pour Vidéotron. Est-ce que c'est une mauvaise chose en soi? Écoute, on vit dans une économie de marché, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que le fait que Vidéotron, ben, tu sais, si le fait qu'un joueur comme Vidéotron arrive dans d'autres provinces canadiennes, ça fait en sorte que le marché se stabilise et à la baisse. Ben, je vais être bien content, tu sais, c'est une compagnie québécoise quand même, Vidéotron, là, c'est pas. Sauf que par contre, si ça ne fait que maintenir le statu quo, puis on invite un nouveau joueur dans le Boys Club des fournisseurs de services mobiles, ben, tu sais, je veux dire, le problème avec ça, tu sais, comme tu le dis souvent, va avec tes pieds, là, ben, en téléphonie mobile, tu peux pas.
Non, c'est ça. C'est un monopole trip à trois, là. Tu sais, c'est un trio qui a un monopole, là. Hey, Martin, t'as vu l'étude qui est sortie, moi, je considère que c'est un des premiers post-mortem intéressants de l'après-pandémie. On a déterminé avec cette étude-là, que la désinformation liée à la pandémie de la COVID-19 aurait causé des milliers de morts et d'hospitalisations évitables. On s'en doutait, là, que ça faisait ça, là, parce que, bon, c'est sûr que les gens qui nient l'existence de la maladie ou bien qui refusent de prendre le vaccin s'exposaient à plus de danger, puis évidemment les conspirationnistes de nous dire ben moi je connais personne de malade, puis dans toute la manif là qu'on était là, les 32 000 là, ben y a personne de malade là-dedans. C'est drôle, hein, ce qu'on affirmait, tu sais, ok, tu as vérifié les 32 000 personnes, ben en fait là, 32 000 en chiffre conspi, ça veut dire 4 000 dans la réalité là, mais à les entendre, il y avait jamais personne de malade dans leur gang. Eh bien, c'est le contraire qu'on est en train de démontrer avec cette entrevue-là. tous ceux qui croyaient, tu sais, bon, soit que la pandémie était fausse, le virus n'existait pas, les vaccins pouvaient altérer l'ADN, puis que le... Ben, ces croyances-là ont coûté la vie à environ 2800 personnes, en plus d'engorger les hôpitaux en ayant des symptômes plus sévères parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Entre mars puis novembre 2021, ça aurait freiné plus de deux... Écoute, la désinformation a empêché... En tout cas, empêchés. Ces gens-là se sont empêchés. Ouais, 2,4 millions de personnes qui se sont empêchées d'obtenir le vaccin. Là.
Ben, ou plus vite. Parce que rappelons quand même que c'est selon l'étude là, qu'il y aurait eu 2800 décès. Mais moi, l'affaire qui me fait capoter de cette affaire, de ce truc-là, c'est sur cette même période, un sondage à Bacchus avait par ailleurs révélé que 7% des adultes canadiens étaient réticents à la vaccination et que 7% la refusaient. OK, mais de ces 2 × 7% là, 85% pensaient que le vaccin dissimulait des méfaits et 73% croyaient que le virus de la COVID-19 était faux ou exagéré. Faux. Ça n'existe pas. Hey, ça là, j'ai toujours fait moi, c'est ton topo, là, Frank, mais j'ai toujours attendu. J'ai toujours montré une certaine réserve à affirmer des choses relativement à ça parce que je pouvais pas les appuyer sur quoi que ce soit.
C'est ça, c'était pas chiffré, il n'y avait pas d'études encore.
Non. Mais là, moi, je suis désolé, puis il y a une personne que ça me tente de citer qui est Alex Sam. Alex Sam, qu'on a reçu dans le crachoir, Alex Sam qui est sous le coup d'une poursuite par Didier Raoult parce qu'il a exposé un paquet de conneries que ce gars-là a faites. Et lui, dans des échanges que j'avais eus avec lui...
Qui est microbiologiste, si je me souviens bien, ou virologue. Ouais. Hein?
Biologiste, pas nucléaire, mais biologiste...
Très qualifié.
Il n'y a aucun doute sur ses compétences. C'est quelqu'un de crédible, puis je le trouvais un peu radical dans les échanges qu'on avait. Il disait, Martin... La désinformation a causé des décès. Il pouvait pas me chiffrer. Il pouvait pas me dire, ben, regarde, selon des ci ou des ça, ou une étude ou ci ou ça. Il pouvait pas. Mais, il dit, Martin, la désinformation, ça cause. Puis moi, j'adoptais toujours la position de dire, oui, je suis d'accord, mais je peux pas m'appuyer sur quoi que ce soit. Ben là, évidemment que dans les cercles conspitoyens, ça va crier au meurtre, ça va dire, ben voyons donc, ces médias subventionnés, puis patati, puis patata, puis gna gna gna. Parfait, faites ça. Mais moi, ce que je dis, c'est que, tu sais, ça me semble être une étude sérieuse. Ça me, tu sais, puis bon, là, je comprends qu'il y a toujours des facteurs d'erreur, mais moi, tu sais, pour moi, c'est suffisamment étoffé pour que je puisse... Maintenant, affirmer que oui, la désinformation, ça a causé des décès. Absolument. Aucun doute.
On pouvait le déduire
si
avant.
C'est une question de combien ça en a causé. C'est-tu moins grave si c'est juste 1000 au lieu de 2800? Ben non.
Mais c'est parce plus que grave 2800 personnes. Quand même. Mais tu sais, c'est...
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que un, c'est trop.
Oui, cet effet-là, tu sais, on déduisait que ça allait faire ça parce que c'était juste la logique. Maintenant, on le sait et on est capable de mettre des chiffres là-dessus. Alexandre est docteur en biologie.
C'est pas grave. Là, je cherchais la terminologie exacte.
C'est un petit peu plus pointu que ça, là, mais c'est quelqu'un qui a une formation. C'est pas quelqu'un qui parle.
C'est ça.
Comment?
C'est la biologie moléculaire.
OK, voilà. C'est pas un scientifique citoyen là. Mais on apprenait dans le journal que il y a un couple anti-vaccin qui refusait une transfusion pour une opération vitale. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de recevoir du sang contaminé de gens vaccinés. C'est rendu gros, là, pareil, on en a déjà parlé, là, les affaires de sang peu. C'est sûr qu'avec des Max Wimette, le policier du peuple pour le peuple, là, tu sais, qui sort des histoires à coucher dehors de sang noir, que les gens vaccinés ont le sang noir, puis chez Emma Québec, on met les poches à côté, puis ce qui était évidemment totalement faux, du sang noir.
Il y a quelqu'un d'Emma Québec qui m'a dit.
Non, c'est ça. Mais regarde, ça suffit, ça et bien d'autres publications de bien d'autres gourous aussi, à faire croire aux gens que les vaccinés avaient un sang impur, Donc, des gens, donc, dont ce couple-là anti-vaccin qui avait besoin d'une transfusion pour une opération vitale, l'ont refusé parce que, ben, c'est ça, ils recherchaient du sang pur, ils ont peur du sang contaminé, ça va loin là. Tu sais, puis des gens sont prêts à presque mourir pour leur croyance. Puis ça, je vous dis, c'est pas une nouveauté en soi. Les témoins de Jéhovah n'acceptent pas les dons de sang, et même que lorsqu'ils sont malades et qu'ils sont susceptibles d'avoir besoin d'une transfusion, il y a des gens du clergé, des témoins de Jéhovah qui vont à l'hôpital pour s'assurer que ça n'arrive pas, pour empêcher le personnel soignant de soigner ces gens-là, parce que le trans... c'est des croyances qui ont coûté la vie, notamment il y a quelques années, je me rappelle, on l'avait couvert, une mère de famille qui est décédée, elle avait des enfants en bas âge, mais elle est décédée parce qu'elle refusait de recevoir des transfusions de sang alors que ça prenait ça pour lui sauver la vie. Ben là, ben il y a ce couple-là néo-zélandais qui refusait, oh, c'est épouvantable, une intervention chirurgicale qui devait sauver la vie de leur bébé. Ils étaient prêts à laisser mourir leur bébé, leur enfant, parce qu'ils avaient peur qu'ils reçoivent du sang de quelqu'un de vacciné. Regarde, admettons que ta lubie est ridicule de croire que le sang contaminé est vrai, là, puis que t'as peur que ton enfant ait des séquelles, c'est toujours bien moins pire que le laisser mourir. Mais, ben, tu sais, le jugement n'est plus là, hein, dans la tête de ces gens-là. Ils sont obsédés par cette idée-là de sang pur. Au moins, le tribunal leur a retiré la garde de leur enfant pour que cet enfant-là puisse être soigné, là, tu sais, en Nouvelle-Zélande... C'est un pays avancé, là. Il y a quand même des droits humains là-bas qui sont appliqués. Mais c'est gros,
ouais,
ça,
mais
c'est,
selon
cette
Maxime
histoire-là
Bernier,
de sang pur. Là.
Selon, tu dis ça au sujet de la Nouvelle-Zélande, mais selon Maxime Bernier et Stéphane Blais, la présidente qui a quitté ses fonctions, c'est un monstre qui a transgressé les droits fondamentaux de ses citoyens et citoyennes. Imagine-toi.
Ben oui, c'est à grandeur de la planète, cette théorie de conspiration-là. Ça fait écouter la vie d'un bébé en Nouvelle-Zélande, mais ça fait des dommages ici aussi. Puis on le voit dans nos Facebook respectifs. Ça y est, fini de temps pour avoir quelqu'un, tu sais, ou des republications de gens qui sont sur des sites de rencontres, puis tu vois des annonces pour rencontrer. Je cherche quelqu'un de non vacciné pour procréer un enfant au sang pur, puis
je... Je l'ai vécu ça. J'étais sur une application de dating. Il y a quelqu'un qui a liké mon profil. Je suis allé voir le profil de la personne. C'est pas Tinder, là, c'est une autre affaire.
Grindr.
C'était écrit, tu ne devrais pas... Ben oui, Frank. Tu ne devrais pas m'inviter à une date si tu es vacciné. Bye.
On veut du sang pur.
Hey, mais dans les résultats de l'étude aussi, là, il y a une donnée importante. C'est que eux-mêmes affirment que les données... qu'on recueillit ne tiennent cependant pas compte des conséquences indirectes de la pandémie, dont les reports de chirurgie, les coûts du traitement de la COVID longue et le poids de la crise sur le personnel de la santé. Ça aussi, ça a des conséquences. Là. Ça
oui,
aussi,
évidemment.
Ça a des répercussions.
Mais
là.
Non, on les a écartés de l'équation, c'est bien ça?
Absolument. Les données qu'ils ont présentées n'en tiennent pas compte.
OK. Alors, écoute, oui, il y a eu plusieurs facteurs qui sont venus influencer ça, mais on dit aussi que si tout le monde avait été vacciné à temps, ça aurait tempéré de 200 000 cas, les cas positifs de la COVID-19, et diminué les hospitalisations de 13 000. Ça aurait peut-être donné un petit break aux infirmiers. Bon, pas un break, mais il aurait été un peu moins surchargé, puis je suis convaincu qu'il l'aurait pris, surtout au moment où le système de santé en arrache, puis où ces gens-là sont surmenés. 13 000 personnes de moins, ça je suis convaincu que ça aurait paru. Mais bon, tu sais, ces gens-là, ils croient, puis ils pensent qu'ils sont dans leurs droits, puis qu'ils ont raison, puis ils pensent se sauver la vie en refusant le vaccin alors qu'ils le mettent en danger. Mais je l'ai dit souvent, la foi parle plus fort que la raison. Puis tant que la foi en ces croyances-là existe, la raison ne peut pas habiter le même cerveau.
As-tu une bonne nouvelle? Tu es sur le marché pour une bonne nouvelle, toi?
Ah oui.
Ben, j'en ai parlé un petit peu cette semaine, j'y ai fait allusion, mais je trouve que ça vaut à peine qu'on en discute officiellement. Il y a une compagnie aérienne qui s'appelle, un constructeur qui s'appelle Zero Avia. La bonne nouvelle, en fait, c'est qu'ils sont parvenus à construire un avion qui utilise comme seule source de carburant l'hydrogène liquide et qui est en train de... En fait, il y a au sein des investisseurs de l'entreprise, c'est quand même intéressant parce que tu as American et United Airlines qui sont des compagnies aériennes de très grande importance, là, tout le moins dans le marché américain. Et écoute, ils ont leur carnet de commandes est déjà rendu à 1500 avions, donc c'est de très bon augure. Là, à l'heure actuelle, on est eux autres, qui leur prétention, c'est de dire qu'ils sont à quelques années de vols commerciaux, parce que là leur avion...
Faire l'approbation, aller chercher, là.
Ouais, puis c'est pas juste ça. C'est pas encore au point technologiquement parlant. Tu sais, l'avion qu'ils sont capables de faire voler avec un range de 500 000.
Puis il est fait en papier.
Donne à peu près 800-900 km. C'est un 19 passagers. Okay. Et l'autonomie, on va arrondir ça à 800-900 km. Par contre, mais leur prétention, c'est de dire qu'on est... C'est le premier pas, ou en tout cas le premier vol vers la possibilité d'avoir des avions commerciaux qui fonctionnent à l'hydrogène, de un, de deux.
Les premiers avions à gaz, c'était un passager, hein, fait que c'est quand même.
Ouais, puis j'écoute, à vitesse que ça va là, tu sais, on regarde ChatGPT, tu sais, quand même que les avions à l'hydrogène vont un petit peu moins vite que ChatGPT, tu sais, ça va être positif pareil. Puis l'autre truc intéressant, c'est que quand même à relativement court terme, cet avion-là va permettre de faire du local. Et ça, c'est intéressant. Les vols régionaux, tu sais, c'est un marché à développer. T'sais, on parlait ici au Québec, là, le fameux 500$ par passager, tout le kit. Mais tu sais, il y a assurément des clients potentiels qui vont se dire, ben, regarde, on va acheter des... T'sais, on pourrait, pour les vols régionaux, utiliser des avions comme ça, puis ainsi diminuer notre empreinte. Ils ont fait des vols tests et tout ça, des vols d'une dizaine de minutes, tout s'est super bien passé. On s'entend, là, ça commence. Là. Sauf que c'est assurément un pas dans la bonne direction. La compagnie s'appelle Zero Avia. Il y a 1500 commandes et cette entreprise-là prévoit, bon, tu vois, là, ils ont le ZA2000 RGT, les noms d'avions. J'imagine qu'il y a des façons, il y a des conventions, là, comment tu sais.
Le ZA2000 RGT. Mais tant qu'ils appellent pas zéro, avec un rond rouge, là.
Ouais. Puis tu vois, là, avec juste pour donner un exemple, tu sais, quand je parle de vols régionaux, c'est quand même intéressant, parce que là, je parlais du Québec, nos régions, nous autres, mais tu sais, aux États-Unis aussi, c'est parce que ça peut desservir des grands marchés. Tu sais, tu peux faire Pittsburgh-Chicago, tu peux faire Amarillo, Austin, tu sais, mettons Texas, Fort Myers, Savannah en Floride, tu sais. Fait que ils ont donné des exemples. Eux autres, puis en Europe, même chose, Milan à Naples, Munich à Hambourg, tu sais, ça fait tout dans la capacité d'autonomie de ces ce premier avion-là. Fait qu'on va suivre ça. Mais puis tu sais, en fait, je me rends compte aussi que tu sais, je parle souvent de l'hydrogène, mais tu sais, forcé d'admettre que c'est peut-être une technologie vers laquelle il va falloir se tourner. Ou en tout cas, à tout le moins, considérer pour la suite des choses.
J'ai une petite... On a un commentaire de quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'aviation. Il dit « Le stockage de l'hydrogène m'inquiète un peu, c'est hautement inflammable. » Ben, j'imagine que c'est un carburant, mais ce qu'il veut sûrement dire, c'est que c'est plus inflammable ou volatile. Écoute, ce qui est important là-dedans, c'est de savoir si ça va pouvoir transporter des chemtrails, puis...
Ouais, le Python Chemtrail, il est installé.
Il est installé.
C'est ça qu'on veut savoir. Hey, ce soir, Frank, comme vous avez pu le voir à quelques reprises, défilé, là, ça va être le spermatozoïde traditionnel, mais la semaine prochaine, spermatozoïde en vidéo.
Oh, avec sa grosse face du plus beau de tous les hommes de la planète.
Mike, il l'annonce. Ouais, Mike a annoncé ça, fait que ben hâte de voir ça la semaine prochaine, mais là je le tease un petit peu parce que je trouve ça pas mal intéressant parce qu'il reçoit Mathieu Nadeau-Vallée, évidemment le docteur TikTok, fait que ce soir à 21h ici même sur Touski TV, venez faire un tour.
Écoute, c'est vraiment cool.
La semaine prochaine, ça commence.
Puis si moi je suis game de mettre cette face là à l'écran, tu peux le faire sans problème.
Ben oui. Ben ouais, puis tu sais,
la glace est brisée, le miroir est craqué, tout est fait.
Ouais, ouais, puis dites-le lui à Mike là, que vous êtes content de ça. Là, à soir, je présume qu'il va être dans le chat. Fait que venez lui montrer votre support, n'est-ce pas? Puis moi, je suis bien content parce que je vais collaborer un petit peu avec lui à mettre ça en place là, pour la semaine prochaine. Fait que ça va être bien cool. Là. On continue de parfaire l'offre de service de tout ce qui TV, puis c'est grâce à vous autres parce que vous êtes là quand on fait des affaires.
Sinon, ben, on
c'est ce soir, les DJ, c'est ce soir.
Ouais. Sinon, on disait dimanche, on va recevoir...
Je veux juste que ce soit bien clair. Ce soir, c'est un podcast avec Mike Tremblay, comme on les présente toujours. Donc, ça va être audio seulement. Sauf que la semaine prochaine, ça va commencer à être en vidéo. Et c'est ce soir que Mathieu Nadeau-Vallée est là. Donc, voilà. Okay.
C'est clair. Dimanche, on va recevoir quelqu'un de très pertinent. Je vais te laisser l'annoncer, puisque c'est toi qui as pensé de l'inviter.
Ben écoute, moi je suis bien content parce que c'est un ami en plus, puis c'est un gars de Rouen aussi. On va avoir Jonathan Saint-Pierre, Jonathan le prof, puis on va faire le tour dans le crachoir épisode 234, je pense. On va faire le tour de la situation en termes d'éducation avec un enseignant. Puis écoute là, je doute fort qu'il y a des gens qui ne savent pas. C'est qui Jonathan le prof? Si vous le savez pas, ben allez faire un tour sur sa page Facebook ou sur son compte Twitter. Vous allez cerner le personnage très rapidement.
Vous allez avoir du fun à lire aussi puis à apprendre des choses. Fait qu'on va lui poser toutes les questions pertinentes sur l'enseignement, le système d'éducation. Donc un gros show de 5 heures qui s'en vient dimanche. Non, évidemment, on va être plus indulgent que ça. On va pas l'user à la corde parce que lui aussi, j'imagine qu'il a une charge de travail qui est assez importante. Ben il prend quand même le temps de venir avec nous ce dimanche. On la remercie, puis on vous convie tous à ne pas rater cet épisode-là qui sera diffusé ici même sur la chaîne Touski TV et aussi évidemment disponible en podcast sous toutes ses formes, toutes les plateformes, les podcatchers, tout ce qui existe. On est là. Pareil pour l'Express et tous les autres crachoirs. Donc on vous dit à dimanche pour le crachoir dominical suivi de l'after show sur Touski TV et aussi rendez-vous lundi à midi pour vos Express de la semaine. Salut!
De la famille H2O.